Est-ce que c'est possible d'arrêter toutes les voitures du monde dans les 3 ans qui viennent? C'est pas plausible, en tout cas. Mais si on ne se pose pas la question de se dire comment on fait pour sortir du tout voiture, etc., je vous dis, ce ne sera pas 1,5 ou 2 degrés, ça sera 5.
Depuis des décennies, la communauté scientifique alerte, ou plutôt tente d'alerter le monde, sur les dangers du réchauffement climatique. En France, les balbutiements de l'écologie politique remontent à René Dumont, premier candidat se réclamant de l'écologie à une élection présidentielle. C'était en 1974, il y a 44 ans. Depuis, le sommet de la Terre en COP, la COP 24, qui vient d'avoir lieu en Pologne, n'a pu que constater les dégâts, quand la COP 21, en 2015, avait fait naître quelques espoirs, on se rend compte que les gouvernants ne parviennent pas à tenir leurs engagements. Et plus le temps passe, plus le sentiment d'urgence écologique étreint les chercheurs de tout pays, avec l'impression que les mesures à prendre ne seront jamais prises.
Bien sûr, il faut alerter, mais il faut que cette alerte soit toujours accompagnée de perspectives. On n'a plus la possibilité, je dirais presque plus le droit aujourd'hui, de donner un langage par rapport à ces problèmes-là qui ne soit pas accompagné d'une mise en situation, une mise en perspective qui débouche sur quelque chose.
Alors, à défaut de mesures politiques fortes et contraignantes, on rencontre de plus en plus de citoyens décidés à prendre en main localement leur destin écologique et, par exemple, à faire au quotidien tous les gestes qu'ils peuvent pour la planète. Achat de biens de consommation durable, tri des déchets, les initiatives se multiplient.
Nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise majeure environnementale, une crise climatique. Donc la question, je dirais, du tri et donc du recyclage de tout ce que nous produisons en tant qu'humains est fondamentale.
Du blues des scientifiques à l'enthousiasme des citoyens, c'est le grand écart que nous vous proposons de faire grâce à ce reportage de Marjolaine Corr, Réchauffement climatique, grande cause et tout petit pas.
Interception, le magazine de la rédaction.
C'est moi.
Attends, je te laisse parce que là j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je te laisse. Excusez-moi, j'arrive. Il est quelle heure? 13h.
On est bon.
Jean-Paul, on monte. Ah oui, pour aller en Pologne, c'est terrible.
Ami Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste des relations entre climat, politique et société.
Vous êtes un certain nombre quand même à alerter, à donner des exemples assez précis sur ce qui nous attend si rien ne bouge. Pourquoi cette inertie? Comment ça se fait qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous comprend pas?
Bah écoutez, c'est pas si simple, je ne sais pas. Je ne peux pas dire pourquoi. Peut-être que les scientifiques ont été pendant trop longtemps sur une perspective de longue durée, c'est-à-dire avec des scénarios jusqu'à la fin du siècle, etc. Et ça, bon, bah, fin du siècle, pour les gens, c'est loin. C'est la fin du 21e siècle, c'est loin. C'est même pas eux ou leurs enfants, à la limite leurs petits-enfants. Enfin, ça paraît loin. Et puis, il y a toujours ce mythe qui a caractérisé la civilisation occidentale, c'est que la technique allait sauver les choses, qu'on trouverait des technologies qui résolvent les choses. Et aujourd'hui, il faut bien voir qu'on n'a pas de technologie qui absorbe le carbone dans l'atmosphère. Ça, c'est de la blague. On n'en a pas. À part planter des forêts. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance mondiale réelle. On sait bien que le multilatéralisme et les COP, tout ça, c'est mieux que rien. Et puis, ça a fait quand même monter la conscience du problème dans les populations depuis 20 ans, un peu partout, malgré tout. Mais la prise en main effective dépend des pouvoirs élus dans les nations ou des pouvoirs en place dans les différents États. Et ça, il y a beaucoup de plus en plus quand même d'égoïsmes nationaux, d'autres intérêts, de populisme qui fait que ça n'a pas suffisamment avancé. Parce qu'il faut bien voir qu'en France, on n'est pas dans un climato-scepticisme de la même façon qu'aux États-Unis. Les gens ne disent pas, ça n'existe pas. Personne ne dit, ou très peu disent ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et quand les gens n'agissent pas ou quand les gens ne sont pas mobilisés, c'est parce qu'ils ont, dans la hiérarchie de leurs préoccupations et de leurs problèmes, ce n'est pas en haut de l'agenda. Il y a d'autres questions. On peut comprendre, pour un certain nombre de gens, disons, qui ont beaucoup de difficultés sociales, que bah, ils ont des problèmes de fin de mois et que les problèmes de fin de siècle, je dirais, sont plus lointains. Donc, la question que je crois décisive à saisir, pour nos gouvernants et pour les responsables politiques, c'est d'arriver à articuler ces deux problèmes et de montrer là, comment ils peuvent s'épauler l'un l'autre, comment une lutte intelligente contre le changement climatique et pour une transition énergétique peut aider à la fois d'un point de vue social, c'est-à-dire par exemple pour les personnes les plus démunies, etc., vivre dans des conditions meilleures, plus saines, etc. Toutes ces questions-là, c'est un peu une remise en selle, je dirais, d'un projet social à plutôt court et moyen terme qui fonctionne un peu différemment.
Il est encore temps d'inverser la tendance pour vous ?
Il est temps de commencer à infléchir. Je crois que, par exemple, je ne pense pas que les 1,5 degrés, vous savez, il y a eu un rapport du GIEC sur 1,5 degré qui décrit les impacts et les dégâts terribles que déjà 1,5 degré peuvent causer. Et le 1,5 degré, on est déjà à 1. Ils disent c'est possible quand même. Alors bon, il faut bien voir ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que c'est possible d'arrêter toutes les voitures du monde dans les 3 ans qui viennent ? C'est pas plausible en tout cas. Je ne peux pas répondre à possible, mais c'est pas plausible. Et ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Mais si on ne se pose pas la question de se dire comment on fait pour sortir du tout voiture, etc., je vous dis, ce ne sera pas 1,5 ou 2 degrés, ça sera 5, 4, 3, 4, 5. Et ça, c'est terrible pour ce qui va se passer dans les pays, dans les côtes, les hausses du niveau de la mer, etc. Voilà, je crois qu'il est toujours temps d'agir.
Merci. Au revoir.
Merci. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Jacques Chirac, septembre 2002.
Je ne comprends pas que nous assistions à la gestation d'une tragédie bien annoncée.
Nicolas Hulot, août 2018.
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
La planète est en train de devenir une étuve. La biodiversité fond comme la neige au soleil.
Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités.
Direction Jussieu pour une interview avec Hervé Le Treut, qui est climatologue et qui enseigne à l'université de Jussieu. Je suis au sein de l'université et j'essaye de retrouver la salle de cours où il enseigne actuellement.
Là, vous allez où ?
Je vais dans une salle de classe.
Chaque année, 4 millièmes en plus.
Bonjour. Je vais encore.
Et donc, c'est 4 millièmes en plus. L'urgence d'émettre les gaz à effet de serre, c'est une urgence qui est une urgence physique. Donc, si on attend 20 ans, c'est 20% qui est perdu. Hein. J'ai encore 2-3 choses sur la température globale, et puis après je passerai à d'autres éléments, et j'essaierai de montrer comment ça peut changer.
Non, ces élèves-là sont des élèves qui viennent de lieux très différents. Il y a des géographes, il y a des gens qui font des... Donc on est face à un public très hétérogène. Et ça fait des années qu'on en parle, ça a été compliqué à mettre en place. Et c'est là que on étreint ça, c'est le premier cours que je fais de ce type-là. Et on se rend compte que tous ces problèmes liés au changement climatique, finalement, les gens qui font carrière dedans, il y en a de plus en plus, souvent une formation plutôt littéraire. Formation littéraire qui leur permet d'avoir un esprit de synthèse par rapport à ça et qui peuvent aussi proposer un discours qui est simple, qui est réglé, qui est compréhensible par beaucoup de gens.
La communication autour de ces thèmes-là, c'est quelque chose qui vous préoccupe ?
Oui, ça me préoccupe parce qu'en fait, je crois qu'on a franchi des étapes sans faire le bilan précis de ce que ça représentait. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est différente. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale du fait que c'est un problème important. Cette prise de conscience correspond aussi à une forme de stress pour beaucoup de gens. Et ça nous oblige à quitter un peu le langage un peu simple de l'alerte. Je crois qu'on ne peut pas rester sur un langage d'alerte aujourd'hui. Bien sûr, il faut alerter, mais il faut que cette alerte soit toujours accompagnée de perspectives. Je crois qu'on n'a plus la possibilité, je dirais presque plus le droit aujourd'hui,
de donner un langage par rapport à ces problèmes-là qui ne soit pas accompagné d'une mise en situation, une mise en perspective qui débouche sur quelque chose.
Il nous reste à peu près combien de temps vraiment pour agir ?
En fait, le problème du temps est un problème qui est très délicat parce que ça dépend des objectifs qu'on se donne, bien sûr.
Quels seraient ces objectifs ?
Je crois très fortement, c'est être capable de maintenir la paix. Donc en fait, la première chose, c'est la justice, je crois. Si on n'a pas des politiques de développement écologique qui soient vraiment fortement combinées avec des idées de justice à l'échelle nationale comme à une échelle internationale entre les pays du Nord et du Sud, je pense que cette partie-là du problème se résoudra pas bien. Je crois aussi que si on y arrive, en fait, la diminution des émissions de gaz à effet de serre se fera peut-être plus facilement, parce que on le voit bien, ce qui limite aujourd'hui notre capacité à diminuer plus vite les émissions de gaz à effet de serre, c'est un manque d'adhésion d'une partie de la population par rapport à ce qu'elle voit comme des efforts qu'on lui demande. Je crois que le mot effort devrait être utilisé le moins possible. On devrait parler de défi, on devrait parler de transformation positive et le faire avec sincérité. Donc il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Nous sommes à Étampes et nous venons d'arriver dans la rue où habite la famille Binet, qui va nous montrer comment elle vit en tâchant de produire le moins de déchets possible. Donc on va visiter leur maison et donc connaître leurs habitudes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Camille, bienvenue.
Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Ça a été
un peu long.
Un peu long, ouais. Vous aviez eu des bouchons ou
ouais. Ouais, ouais, mal de bouchons.
Entrez, bienvenue. Bonjour. Enchanté.
Stéphane, vous êtes le papa.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes lancé dans cette démarche?
Ça fait maintenant un petit moment, 4 ans, qu'on a décidé d'acheter principalement français. Ça a commencé comme ça, en fait. Et puis, par la suite, on a commencé à faire le zéro déchet, à réfléchir un peu ce qu'on pouvait mettre en place dans la maison. Mais ça s'est vraiment fait petit à petit. On n'a pas changé d'un coup. De toute façon, je pense que c'est impossible de changer d'un coup. Il faut y aller progressivement.
Alors, on consommait déjà énormément d'occasions. Moi, j'étais une fan de brocante, de vintage, tout ça. Et on s'est reporté sur beaucoup les achats d'occasion. On a davantage pensé à réparer nos objets, mais on a généralisé voilà ce mode de consommation. Puis au bout d'un an où on avait installé tout ça, on a davantage approfondi dans le zéro déchet.
En fait, ce qui m'a fait réaliser qu'on était dans la bonne démarche, c'est que avant de faire cette expérience-là, on était à une poubelle jaune. Donc les poubelles jaunes, c'est les grandes poubelles. Une poubelle jaune de déchets, donc papier, emballage, voilà, par semaine. Et on est passé à une poubelle jaune tous les un mois et demi.
Et justement, la poubelle noire existe encore chez vous, la poubelle des déchets qui ne sont pas recyclables?
C'est un petit sac. Un petit sac comme ça, voilà, en papier des fois. Enfin, ce qu'on a, on n'achète même plus de sacs des fois.
En fait, il y a des choses qu'on n'arrive pas à éliminer totalement. C'est surtout des petits emballages plastiques, en fait. Par exemple, l'emballage des rouleaux de papier toilette. Mais sinon, on a des poules. Donc, on a deux façons de recycler les déchets ménagers. On a le compost, le sac à compost et le pot à poules, déjà. Voilà, donc il nous reste des petits trucs.
On peut peut-être commencer à faire le tour de la cuisine pour voir justement ce qui change entre votre mode de fonctionnement et un mode de fonctionnement plus classique.
Tu veux expliquer les bocaux ?
Alors ça, c'est maman qui les fait. Et c'est avec de la cire d'abeille.
Ouais, la cire d'abeille, c'est des bisewrap. C'est des tissus qu'on fabrique, donc qu'on enduit de cire d'abeille. Et ça remplace le cellophane et le papier aluminium. Et du coup, nous, j'utilise pour empaqueter un petit sandwich, un petit goûter. Quand on sort, c'est beaucoup plus léger qu'une boîte, par exemple. Et on les emmène chez le fromager aussi.
Et vous les nettoyez à l'éponge?
Un coup de brosse, du savon de Marseille, parce que nous, on n'a pas de liquide vaisselle. On fait la vaisselle au savon de Marseille. Et une brosse avec de l'eau tiède.
Ah, si on va raconter, mais tu vas peut-être pas aimer.
Hop. De quoi?
Avec quoi on se lave? Avec quoi?
Du savon.
Du savon? Et les cheveux, on se les lave avec quoi?
Du shampoing.
Mais il est comment, notre shampoing? Il est en bouteille?
Non.
Il est comment?
Il est en savon.
Il est en savon, ouais, c'est un shampoing solide. Donc voilà, pour se doucher, on n'utilise pas du tout de gel douche. Je me souviens qu'un jour, Oscar se douchait, on avait une panne de savon, j'avais pas eu le temps d'en refaire parce qu'on fabrique notre savon. Et on a utilisé une petite bouteille de gel douche que Anouk avait dû avoir à un anniversaire. Et je dis à Oscar qui est dans la douche, qui me demande où est le savon, je lui dis « il n'y en a pas, prends le gel douche ». Et il me dit « mais c'est quoi un gel douche ?» Il avait 7 ans, c'était il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit « en fait, il ne sait même pas ce que c'est qu'un gel douche ». Donc c'est vraiment un petit gars zéro déchet.
C'est pas vrai ?
Il n'aime pas quand je raconte cette histoire. Bon bref, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre salle de bain ? On a un déodorant fait maison. Voilà, donc avec du bicarbonate de soude, de l'huile de coco, des huiles essentielles. Qu'est-ce qu'on a ? On a alors du savon de Marseille, parce que moi et des fois Stéphane, on se brosse les dents au savon de Marseille pur. Alors ça étonne beaucoup les gens, mais en fait, moi je le préfère aux autres savons, enfin aux autres dentifrices solides, qui pour moi moussent pas trop. Celui-là, ça mousse bien et puis ça part un goût dégoûtant. Voilà, on a des brosses à dents en bambou. Mais on a quand même une brosse à dents électrique. Ça, c'est un conflit familial. C'est une concession que j'ai faite. On n'a pas de coton-tige, on a des cure-oreilles, des auriculis. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Des fois, je ne vois pas, mais en fait, ça interpelle les gens.
Votre tapis est fait maison ?
Oui, 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 c'est un tissage d'anciens vêtements. En fait, on découpe des vêtements et c'est un tissage qui permet de faire... C'est un peu l'ancêtre de la lirette. On peut venir ? Position. Bonjour, c'est pour une visite.
En gros, on ne peut pas vraiment beaucoup aller acheter dans les magasins.
Oui. Mais du coup, on achète ailleurs ?
Des brocantes.
Et alors ? C'est bien dans les brocantes ? Parce qu'on trouve plein de trucs ? Ouais. Anouk, là, elle est dans l'adolescence, donc elle est un petit peu rebelle en ce moment.
Mais non, c'est juste pour les habits.
Les habits ?
Oui, les habits, c'est pas... Je sais pas, je préfère aller dans les magasins. J'aime mieux, je sais pas.
C'est un peu frustrant, parfois ?
Oui, y a mes amis... Enfin, pas mes amis, mais il y a mes camarades, des fois, ils se moquent de moi parce que je leur dis justement que je sais pas acheter un... Je connais pas certains magasins que tout le monde parle, je sais pas, de Jennifer, et je suis jamais allée dedans, donc je fais « c'est quoi ?» Et ils se moquent tous de moi, enfin...
C'est parce qu'ils comprennent pas les enjeux qu'il y a derrière, en fait, tout ce qu'on fait. Et c'est à toi de leur expliquer. En fait, bon, jusqu'à présent, on a toujours trouvé des alternatives. En plus, tes habits, ils sont tout à fait à la mode. Ben, voilà, elle récupère les habits de ses copines, enfin de ses cousines. Oui. Tes grands-parents, des fois, ils t'achètent un truc neuf. Et puis nous, franchement, on trouve souvent des habits qui sont tout à fait à la mode, qui sont d'occasion. Hein, avec les friperies, enfin les dépôts-ventes, les brocantes, Vinted aussi. Vinted, c'est un site internet qui permet d'acheter en ligne très facilement. Et puis, t'as qu'à pas leur dire, à la limite, où tu l'as acheté.
Bah oui, mais enfin, je sais pas, c'est
pas
un réflexe. Enfin, je sais pas, tout le monde me dit « Ah, c'est trop beau ce que tu portes, où est-ce que tu l'as acheté ?» Et si je le dis, je l'ai acheté dans un dépôt-vente, ils me font « C'est quoi ?» Après, je leur explique, ils font « Mais c'est un truc de plouc, c'est dans les poubelles que tu trouves ça. » Enfin, voilà, c'est ça qui est dit, ça.
Mais ils sont trop jeunes, et puis, de toute façon, c'est pas du tout leur mode de consommation. Donc, tu seras confronté tout le temps, en fait, à ce genre de problème, avec des enfants de ta génération. Ils n'ont aucune conscience, en fait, que c'est le deuxième facteur de pollution, l'industrie textile. Et ils n'ont pas du tout de remise en cause de leur manière de consommer les vêtements. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'appréhension sur la saleté, sur le fait de posséder des objets, des habits en particulier, ou des chaussures qui appartenaient à d'autres. C'est une sorte de limite à ne pas dépasser, quoi. Et en réalité, un vêtement qui aura été relavé, enfin, je vois pas en quoi il est sale. Il y a vraiment beaucoup d'a priori là-dessus.
On vient d'arriver à Montmartre, on se trouve au pied du Sacré-Cœur où il y a la maison du zéro déchet et on va rendre visite à Flore Berlingen qui est la directrice de l'association Zero Waste, une association qui s'occupe de la gestion des déchets et de la réduction des déchets.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée, Marjolaine.
Bonjour.
Bonjour.
Vous voulez qu'on fasse un petit tour ?
Ouais, on peut faire un petit tour du magasin. Il y a du monde
dans le magasin. Oui.
En fait, l'idée de ce lieu, d'une manière générale, c'est de montrer et d'offrir toutes les solutions qui permettent de réduire ces déchets au quotidien.
Alors, qu'est-ce que vous vendez dans ce magasin ?
Donc, ce qu'on vend, c'est des objets, des choses qui vont venir remplacer du jetable la plupart du temps. C'est que des objets qui vont permettre de réduire ces déchets au quotidien. Donc, on a ces cotons démaquillants lavables que vous mettez dans la machine à laver avec le reste de votre lessive. Donc, pas besoin de faire une lessive particulière pour ça. Et ça vient remplacer les cotons démaquillants classiques qu'on jette tous les jours. Pour beaucoup de gens, c'est un usage quotidien. Et donc, ça fait des déchets tous les jours. Et là on en achète quelques-uns et puis ça dure pendant des années.
Zero Waste s'occupe non seulement des particuliers, mais propose aussi des actions auprès des collectivités et des entreprises.
Zero Waste France, c'est une association qui travaille en direction du grand public, mais aussi en direction des élus et des agents de collectivité, et puis de tous ceux qui veulent changer les choses d'une manière générale, au niveau de leur entreprise, ou au niveau de leur quartier, au niveau de leur immeuble, etc. Donc on est amené à accompagner des démarches, et on est surtout amené à diffuser, partager les retours d'expérience positifs de démarches zéro déchet qui ont fonctionné.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de collectivités qui font justement cette démarche de tenter de réduire leur production de déchets ?
Non, malheureusement pas encore suffisamment aujourd'hui. Parce qu'en fait, il faut que ce soit une remise en question profonde et globale du système de gestion des déchets. Et l'écueil à éviter, c'est de saupoudrer quelques actions dites de prévention des déchets sur l'existant.
Et justement, du côté des collectivités françaises, est-ce qu'il y en a certaines qui sont moteurs et qui servent de modèle aux autres ?
On peut trouver de nombreux exemples de collectivités qui ont mis en place la tarification incitative et qui ont obtenu des résultats de ce fait, de très intéressants. Il y a malheureusement peu de collectivités qui ont fait l'ensemble, la remise en question globale. On les compte sur les doigts de la main, quoi. Il y aurait par exemple Besançon, bien sûr, et son agglomération, parce que là, il y a un travail sur la tarification incitative, il y a un travail sur la réduction des exutoires, c'est-à-dire les installations qui vont servir pour le traitement des déchets.
Du côté des entreprises, est-ce qu'elles sont nombreuses à venir vous voir pour essayer d'améliorer leur impact environnemental ?
On est contacté par énormément d'entreprises de tous les secteurs. Donc c'est plutôt bon signe. Souvent, ça vient de la part de salariés eux-mêmes, initiatives parfois isolées. Et ils nous contactent dans un premier temps pour savoir comment convaincre leurs collègues ou comment convaincre leur hiérarchie même de mettre en place une action. Par contre, malheureusement, ça ne se traduit pas toujours par une démarche significative et qui va apporter un changement structurel.
Est-ce que vous avez repéré des entreprises qui, elles, ont revu de fond en comble leur mode de fonctionnement ?
Peu. Peu d'entreprises sont vraiment dans une démarche de remise en question complète, globale, de toutes leurs activités, y compris le cœur même de leur activité. Il y a l'exemple de la CAMIF qui est intéressant parce que c'est vraiment une réflexion sur le métier, sur le fait de distribuer des meubles. Voilà, qu'est-ce que ça implique comme relation vis-à-vis des fournisseurs, qu'est-ce que ça implique en aval comme démarche vis-à-vis des clients consommateurs. Ils sont allés sur des terrains sur lesquels les autres n'allaient pas encore. Enfin, par exemple, le fait de remettre en question l'acte d'achat systématique, alors qu'en tant que distributeur, le mouvement général va plutôt dans le fait de pousser les clients à acheter, quel que soit le besoin. Mais en fait, finalement, quasi tous les fournisseurs qui sont présents ici, là, dans cette boutique, sont dans cette démarche-là aussi.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Bon après-midi.
À bientôt. Besançon du côté des collectivités, la CAMIF du côté des entreprises, j'ai décidé d'aller rencontrer ces acteurs qui ont modifié en profondeur leur mode de fonctionnement pour réduire leur impact environnemental.
Comme vous voyez, il fait toujours beau à Niort. Quand je suis arrivé ici pour la première fois en 2008, c'était au moment de la liquidation de la CAMIF. Et pendant les 5 mois de discussion avec le tribunal de commerce, ça... Il faisait quand même souvent gris et on me disait « Mais tu sais, à Niort, il fait toujours beau et tout. » Et en fait, c'est vrai. J'ai fait des études pour mettre des panneaux solaires sur le toit du magasin. On l'a pas fait finalement, mais... Et donc j'ai vu les cartes d'ensoleillement du... Je vais louer une voiture comme ça.
D'accord.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va ?
Ouais.
Là, on est dans l'espace, dans l'open space. Alors, tout l'aménagement de l'espace ici a été imaginé par les collaborateurs. Tous les bureaux que vous voyez là ont été fabriqués dans un Fab Lab à Poitiers, poncés, huilés, montés par les collaborateurs eux-mêmes. Et en fait, la particularité de l'espace ouvert, vous remarquerez qu'il n'est pas très bruyant. Donc là, vous voyez, des petits espaces où on peut s'isoler, se mettre à deux, avoir une petite conversation sans déranger tout le monde. Alors, je m'appelle Emery Rekia et je suis un entrepreneur. Et j'ai relancé il y a 10 ans la Camif sur Internet avec un parti pris sur la qualité, la fabrication française et le durable. Une grande marque, surtout quand elle a des valeurs, ça meurt jamais. Donc, j'ai convaincu ma femme de quitter Paris et d'aller venir s'installer à Niort. Et donc, on a réinventé, remis sur pied un modèle autour de la consommation responsable, la production responsable dans l'équipement de la maison.
Alors sur cette affiche que vous nous montrez, beaucoup de personnes ont laissé des mots. Et il y en a un qui est très marrant parce qu'il est assez parlant, c'est « Je vais revenir vers la Camif de mes parents ».
Ouais. C'est un peu la Madeleine de Proust, la Camif, parce que beaucoup d'entre nous ont connu la Camif parce qu'on avait des parents instits ou des oncles ou des tantes instits, et que ça a été créé en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper. Et donc la Camif de parents, c'est en fait une Camif qui a toujours privilégié la qualité, la solidarité, le lien entre ses sociétaires et puis ses producteurs. Et c'est ce qu'on a souhaité remettre au goût du jour en relançant la Camif sur Internet en 2009. Aujourd'hui, on peut visiter l'usine par les vidéo-reportages qu'on fait sur le site de la Camif sur un produit. Vous pouvez voir quels sont les métiers qui se cachent derrière le produit, quelles sont les personnes, combien d'emplois vous soutenez directement à travers votre achat. Et ça, ça change tout, en fait. Alors ça, c'était notre première campagne de pub. Un Draous qui fait 8232 km pour arriver chez vous, c'est une vraie connerie, alors qu'un Draous qui vient de Cambrai, c'est même pas une bêtise. Bon, c'est un petit clin d'œil. Aujourd'hui, 2/3 des clients de la Camif, c'est pas des anciens de la Camif, mais c'est des nouveaux consommateurs qui veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, qui font davantage d'arbitrage, peut-être qui sont dans une consommation plus réfléchie. Alors ça, c'est notre première, une des actions aussi quand on a fait le salon qui s'appelle le salon Made in France, où on interpelle les consommateurs sur le fait qu'ils ont le droit de savoir en fait d'où viennent les produits qu'ils achètent. Et ça, c'est une des premières innovations qu'on a lancées sur le site de la Camif, c'est de donner l'information aux consommateurs avant d'acheter un produit. Il peut utiliser le critère du pays de fabrication, de la région, du département de fabrication pour en faire un vrai critère de choix. Et on s'aperçoit que quand on donne l'information du lieu de fabrication, les consommateurs s'en servent et modifient évidemment leur choix parce qu'ils vont privilégier assez spontanément des produits qui sont fabriqués près de chez eux, parce qu'ils contribuent à préserver des emplois localement, parce qu'ils font moins de kilomètres que les produits qui viennent de très loin. Et en fait, c'est juste du bon sens. Mais pour ça, il faut qu'il ait l'information. Comme on a été un des premiers à offrir cette transparence sur le lieu de fabrication, aujourd'hui sur le site, on peut savoir d'où ça vient, on peut savoir d'où viennent les principaux composants du produit, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et ça, c'est complètement nouveau et c'est une façon de donner les moyens, de redonner le pouvoir aux consommateurs de s'inscrire dans cette consommation responsable.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Je laisse maintenant là, je vais voir.
Je m'appelle Catherine Thiébault, je suis présidente du syndicat de traitement des déchets, le CYBER, donc les déchets pour la région de Besançon. Je suis élue à la ville de Besançon depuis 2001, mais présidente de ce syndicat depuis 2014.
Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez mis en place la facturation au poids ?
Alors c'est une histoire qui remonte, on peut dire, à 2008, quand il y a eu une volonté politique d'afficher, de fermeture d'un des fours les plus anciens, un four qui a été construit en 1976.
Qu'est-ce que c'est un four ?
Un four, c'est un endroit où on brûle les déchets, tout simplement. Pour se passer de ce four, il fallait absolument réduire la quantité de déchets incinérables.
En fait, vous étiez confronté à un choix, devoir le fermer ou le rénover ?
Voilà, donc on avait cette volonté politique de s'inscrire dans une réduction forte des déchets incinérables. Ce qui fait que pour ne pas remplacer ce four, il fallait qu'on diminue cette quantité. La première façon de traiter les déchets, c'est de ne pas en produire. Et la moins bonne façon, c'est de les mettre à l'enfouissement. Et l'avant-dernière, c'est l'incinération. Ensuite, il y a la valorisation matière, il y a le recyclage, le réemploi. Depuis ce moment-là, l'idée aussi a germé de faire une redevance incitative au poids, de façon à inciter encore plus les habitants à détourner les biodéchets et aussi à recycler, à trier encore mieux leurs déchets dans le bac jaune de recyclables.
Alors pour la part du compost, d'enlever la partie organique des déchets a réduit déjà de combien la quantité de déchets produite ?
Les Français envoient environ 80-90 kilos de déchets organiques dans la poubelle grise. On a fait une analyse en 2015 de ce qui restait dans nos poubelles grises. Et on a trouvé 36 kilos, donc ça avait déjà beaucoup diminué entre 2008 et 2015. On a perdu près de 50 kilos, pratiquement. Les biodéchets, on pense qu'on a fait une grosse partie du chemin vers la réduction des déchets organiques dans les poubelles grises.
Et vous avez pu constater, petit à petit, quand vous avez instauré ce mode de facturation, une baisse de la quantité de déchets produite ?
Clairement, on est passé, je crois, c'était 228 kilos, on est passé à 155 kilos très rapidement, de 2008 à 2012-13. Hein, et puis petit à petit, là, on en est maintenant à 145 kilos par an par habitant sur tout le territoire du Cyber.
Ça c'est du JRM qu'on va mettre en balle, du journaux Revue Magazine qu'on va mettre en balle.
Ça c'est trié.
On est entré à l'intérieur du centre de tri et on peut voir des grosses bottes de papier qui ont été agglomérées dans un côté. On voit aussi des grands tapis qui laissent défiler des anciens prospectus. On a vu un des employés mettre dans des tuyaux tous les détritus qui auraient dû partir à la déchetterie, des anciens claviers, des câbles, qui sont donc renvoyés à leur destination. Et nous allons maintenant voir comment se passe le tri manuel. Donc là, on voit les employés enlever tous les petits films plastiques qui vont partir pour un autre traitement.
Oui, ils vont être remis dans le flux de plastique. Là, effectivement, ce sont les erreurs de tri qui ont été commises par les machines. En fin de process, hein, c'est un centre de tri moderne où les personnes ne trient pas les déchets dès qu'ils arrivent dans le centre de tri, comme c'est le cas dans certains anciens centres de tri.
Je vous propose d'aller voir le début du process. Allez, on y va.
Loïs Monlor, directeur du centre de tri de Besançon.
Donc là, vous pouvez voir le méandre un peu des tapis. Hein. Les tapis se croisent, s'entrecroisent. On a à peu près un kilomètre de convoyeur. Donc là, on voit la partie qui est passée dans les trous. Il y a encore du papier, mais du papier qui est quand même relativement petit. Et ce qu'on appelle tous les corps creux. Les corps creux, c'est les bouteilles de plastique, les canettes d'acier. Et directement, on va passer l'aimant va récupérer les canettes métalliques et les envoyer dans une petite presse à paquets. Le centre de tri du Cyber, c'est à peu près 60 tonnes qui arrivent par jour et qu'il faut trier. C'est donc un peu plus de 15 000 tonnes par an de déchets à trier.
Et qui sont les clients de ces balles ?
On passe la plupart du temps par ce qu'on appelle les filières, hein, qui sont mis en place dans le cadre de contrats et qui sont des repreneurs de plastique, des papeteries pour le papier. Pour l'acier, c'est des gens comme Arcelor, hein, qui sont nos repreneurs et qui reprennent nos matières valorisées. Le Cyber, aujourd'hui, ouvre ses portes de façon assez restreinte aux usagers de son territoire. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on accueille une visite. Hein, les gens ont eu une explication de tout ce que l'on fait au Cyber, hein, pendant 2 heures. puisqu'on rend, d'une certaine façon, on rend l'outil aux usagers. Parce que souvent, on a affaire encore à des vieilles rumeurs ou croyances hein, qui nous disent que, voilà, que tout n'est pas bien fait. Voilà. Donc ça permet aux gens de voir que tout se fait bien. Quand ils mettent dans la poubelle jaune, ça sert à quelque chose et que ça ne part pas n'importe où, que c'est bien traité.
Bonjour. Je vous laisse finir si vous aviez... Voilà ce qui nous intéressait. Nous, on est journaliste à France Inter et on fait un reportage sur la gestion des déchets ici. Et ce qui nous intéressait, c'était de savoir ce qui vous avait motivé à venir faire cette visite aujourd'hui.
Moi, c'était pour apprendre à mieux trier, parce qu'en fait, on est souvent confronté à des problèmes. Je le mets dans quelle poubelle et tout, bon.
Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise majeure environnementale, une crise climatique. Donc la question, je dirais, du tri et donc du recyclage de tout ce que nous produisons en tant qu'humains est fondamentale.
Les gens prennent conscience du volume de déchets quand ils sont ici, quand ils voient tout ce qui est, toutes les balles de plastique, de papier, etc. Ils se rendent vraiment compte qu'on produit beaucoup de déchets. Ça aussi, c'est pédagogique de voir l'état de déchets triés.
Voilà, on a fait le centre de tri. Hein. Sachez que sur le site, on a un deuxième centre de tri qui trie tous les encombrants issus de déchetterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas où mettre dans une déchetterie, on vous dit, mettez dans cette benne fourre-tout. Et bien aujourd'hui, nous, cette benne fourre-tout, qui était au préalable envoyée en enfouissement, hein, ne l'est plus depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et tout la benne d'encombrant est retriée.
L'Europe nous a aidé à construire ce centre de tri, justement, pour réduire encore ce qu'on a d'enfouissement. Et on était allé à Bruxelles présenter le projet, faire part de ce qu'on avait réussi à faire, avec un petit tuto qui montrait l'utilité de démanteler les objets multimatières comme une poussette avec du plastique, du métal et puis le textile. Voilà, donc les opérateurs séparent les 3 matières pour valoriser chaque matière différente. Voilà.
Les bulles d'air sont là. Et vous voyez, en fonction de l'objet, c'est éjecté tout en haut, au milieu, où ça tombe naturellement en bas.
Nous arrivons chez Anne-Françoise et Christophe qui habitent le quartier des Cras à Besançon. Ils vont nous expliquer comment se passe la gestion de leurs déchets.
Bonjour. Anne-Françoise.
Marjolaine.
Enchantée.
Bonjour.
Pierre. Bonjour. Bah, venez, rentrez. Vous n'êtes pas là le jour le plus chaud en plus.
Ouais. Mais au moins, il fait bon.
Là, votre conjoint nous rejoindre, c'est ça?
Ouais, il va nous rejoindre.
Hop, c'est juste là. Je suis désolée, hein, c'est pas nickel.
Pour descendre, vous prenez votre bac à compost avec une petite raclette?
Oui, pour vider plus facilement dans le bac et puis pour remonter quelque chose qui soit à peu près propre. Parce que c'est un peu la difficulté en appartement, c'est de gérer le compost, mais avec le petit bac, ça se fait bien.
Et il se remplit rapidement?
On le descend une fois par semaine, 2 fois quand on fait beaucoup de cuisine.
C'est quoi les consignes pour le compost?
Alors, on peut y mettre les épluchures de fruits et de légumes, les noyaux en petite quantité, les restes de repas d'origine végétale, pâtes, légumes, pain, ça on le met généralement pas parce que c'est du petit compost en fait. Donc tout ce qui est pas très facilement dégradable, on évite de le mettre. Donc après voilà, on peut mettre les filtres à café, le marc de café, les plantes, voilà. Donc c'est assez pratique.
Poubelle ?
Donc là il y a le local poubelle traditionnel entre guillemets.
Vous avez sur la porte une affiche qui vous explique spécifiquement ce que vous pouvez mettre dans les bacs recyclables.
C'est ça, qui est fourni par l'agglo.
Et puis la spécificité, c'est que depuis, ça fait un an, il me semble, ils ont élargi en fait tout le tri, à tout, globalement, tous les emballages, on peut les mettre au tri. Typiquement, les pots de yaourt, les plastiques de packs de lait, de packs d'eau, on peut les mettre au recyclage maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ce qui a quand même sacrément élargi la taille du bac de recyclage et quand même sacrément réduit nos poubelles grises, quoi.
Ça fait une paire d'années aussi qu'il y a la taille du bac gris qui a été réduite, parce que le principe de la redevance incitative, c'est qu'on paye au poids aussi et au nombre de levées. Ça incite à moins jeter. Et de toute façon, le bac n'était pas forcément rempli. Là, on constate même qu'il n'est pas encore complètement rempli à la fin de la semaine. Donc on va encore probablement réduire la taille du bac pour réduire à la fin aussi la facture d'ordures ménagères.
Et est-ce qu'il y a une bonne entente entre les voisins à ce sujet-là ? Vous êtes sur la même longueur d'onde ?
Il y a toujours parfois des petits accidents, entre guillemets. Globalement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien.
Après, c'est un immeuble où il y a beaucoup de locataires. Donc on a déjà plusieurs reprises fait des petits panneaux parce que les locataires restent pas forcément très longtemps et du coup ils se rendent pas forcément compte de l'impact sur leur facture de charge des ordures ménagères. Et du coup on a déjà fait des petits panneaux, mais c'est vrai que en fait les personnes qui font le plus attention, je pense dans l'immeuble notamment sur le compost, c'est les propriétaires occupants ou les locataires qui sont là depuis longtemps quoi, qui participent au compost notamment.
Anne-Françoise et Christophe, ça fait 8 ans que vous habitez dans cet immeuble. Est-ce que vous avez vu une différence au niveau de votre facture en 8 ans, une baisse ?
Oui. Ouais, clairement chaque année la facture baisse. Chaque année, le syndic provisionne toujours un peu plus et chaque année, on constate que ça, c'est plus ou moins stable, voire en baisse. Mais sur les déchets gris, c'est clairement en baisse. Ouais.
Bon, on peut aller au bac à compost maintenant ?
Allons au bac à compost. Ouais, voilà, là, on voit qu'il y a pas très longtemps quelqu'un qui est venu vider. On va rajouter un petit peu de paille pour mettre dessus. Voilà.
Alors là, il y a des feuilles, mais ça peut être aussi du broyat, du bois mixé, pour permettre au compost et aux déchets organiques de partir plus vite en compostage, en fait.
Puis après, bon, régulièrement, c'est pareil, faut mélanger pour que ça se réduise mieux. Et puis, il y a le troisième bac juste à côté, là, où, pour le coup, vous voyez, là, il y a le compost terminé, donc qui est quand même bien réduit.
Donc là, c'est une sorte de terreau, et si vous en avez besoin pour vos plantes, vous pouvez vous servir.
Ouais, je pense que là, ça a déjà été utilisé pour les petites plantations qu'il y a derrière. Il y avait des framboises cet été. Voilà.
Il y a du charbon actif à mettre dans l'eau.
Ouais, bah moi je bois de l'eau du robinet.
Complètement, je me dis vraiment, tu bois de l'alcool, mais tu bois pas l'eau du robinet. Tu penses qu'il y a quoi dans ton verre de Ricard là.
C'est clair.
Ouais, ça doit être assez, ouais. Je vais en voir passer des.
Ben, le truc, le problème, je trouve, c'est que tu peux avoir des initiatives à petite échelle, mais dans tous les hôtels de toute la planète. Ils te vendent tous les petits produits en petits sachets individuels que si tu l'ouvres, après il est jeté directement.
Moi je trouve ça terrible.
C'est vrai. Tu je veux dire que même si moi je m'achète mon savon à moi, mais dans tous les hôtels de la planète, dès que t'as quelqu'un qui va à l'hôtel, on change tout, on jette tout.
C'est vrai. Non mais
c'est pour ça qu'il faut penser à soi-même.
Non mais c'est pour moi, c'est pour ma vie à moi, c'est mon petit parcours.
Alors Flore Berlingen, je rappelle que vous êtes la directrice de Zero Waste France, une association environnementale spécialiste de la gestion des déchets. Alors ce qu'on voit avec ces exemples aussi, c'est que quand à la tête d'une entreprise ou d'une collectivité, on porte un projet politique assez fortement, ça a un impact derrière.
On voit que ces démarches, même si elles sont trop peu nombreuses aujourd'hui, elles ont un véritable impact. Et pour moi, ce qui fait leur point commun, c'est un portage politique fort et un engagement fort aussi des agents des collectivités. Donc ce binôme élu-agent-technicien, il est fondamental. C'est une condition de réussite sine qua non. Et je pense qu'on le retrouve aussi au niveau des entreprises, en fait. Il faut qu'il y ait à la fois une motivation qui peut partir de salariés, en fait. La démarche, elle part pas forcément du haut. Mais par contre, s'il n'y a pas de soutien de la hiérarchie, ça n'ira pas très loin, malheureusement.
Le message reste envoyé à tous les décideurs politiques de la planète, pour l'avenir de laquelle les scientifiques, eux, sont de moins en moins optimistes. Réchauffement climatique, grande cause et tout petit pas, c'était un reportage de Marjolaine Corr, prise de son Pierre Quintard et Marc Garvenès, mixage Nicolas Slimani, une réalisation de Stéphane Combe, assisté de Mao de Butler. À la semaine prochaine.